C'est place à dessous de scène.
Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, bonjour. Je me souviens qu'on a gueulé Le Pen, ça pue. Je me souviens de F comme fasciste, N comme nazi, Abba, le Front National. Je me souviens de la jeunesse en mer de le Front National. Je me souviens, mais qui se souvient vraiment et qui tire les leçons de l'histoire ? Allez, quelques petits, je me souviens quand même plus légers. Je me souviens de « Vous êtes le maillon faible, au revoir ». Je me souviens des autocollants Gardarem Loularzac, collés au cul de plein de deux chevaux, d'amis 6, d'amis 8 ou de coccinelles, et même une fois, au cul d'une déesse noire sur un parking à Saint-Germain-en-Laye. C'était assez incongru. Je me souviens que quand Guillaume est revenu de son voyage à Cuba, il n'avait même plus de valise. Eh ouais. Il avait donné toutes ses fringues à des jeunes qui faisaient la manche entre son hôtel et l'aéroport. Alors, à quoi bon garder une valise vide dans ce cas-là ? Je me souviens que dans la mansarde où ma grand-mère avait installé un lit, qui servait à ses petits-enfants quand ils venaient, il y avait, quoi qu'on y fasse, un courant d'air qui traversait la chambre. 10 centimètres au-dessus de votre nez si vous mettiez l'oreiller au milieu du lit. Maintenant, chaque fois que je me réveille la nuit, avec un courant d'air sur le bout du nez. Je me crois dans la mansarde. Je crois entendre mon grand-père qui remonte l'escalier en fredonnant pour voir si le chien n'est pas monté là-haut m'embêter, ou avec un jeu de cartes, parce que il aimait bien jouer. Je me souviens qu'au Honky Tonk, un restaurant tenu par Bruno, Laurent et quelques autres joyeux de rille, rue Charlot, j'arrive plus à resituer où il était exactement rue Charlot, l'accès aux toilettes dans la cour pour le restaurant était un peu quand même folklorique, comme on disait. Ah tiens, hé, à propos de toilettes, je me souviens qu'au Trou Noir, rue du Chevaleret, Messi, tenu par Jean Touzeau et quelques autres, les toilettes donnaient directement sur la petite salle de spectacle dans la cour. Les spectateurs devaient attendre l'entracte pour se soulager. Et l'un d'entre eux, une fois, passa toute la seconde partie du spectacle de Gilles Servat, assis sur le siège Jacob Delafont, faute d'être sorti à temps avant la reprise. Et Dieu sait qu'une deuxième moitié de spectacle de Gilles Servat, ça pouvait durer longtemps. Je me souviens de « Je veux être calife » à la place du calife. Je me souviens que je ne me souviens jamais, le matin au réveil, du moment exact où je me suis endormi la veille. Je me souviens que quand le vieux pape vint à mourir, le nouveau fut appelé Araignée. Araignée ? Araignée ? Quel drôle de nom ! Pourquoi pas Libellule ? Ou bien Papillon ? Je me souviens que Corinne était toute fière de m'envoyer, dès le mardi, soit par Internet, enfin, moi je recevais sur Minitel, hein, en 36-14 quelque chose, quelques brèves de Charlie Hebdo, qu'elle tenait de T-News. Je ne me souviens plus de qui Sancho ou Pedro, et le gros couard avec un bonnet, ou le grand avec une bouche simiesque dans les merveilleuses cités d'or. Je me souviens de la fois où Laurence m'a invité un samedi soir chez elle pour un repas entre amis. Laurence que je voyais dans des spectacles tous les 15 jours ou dans mes rêves, toutes les nuits, malgré notre différence d'âge, j'espérais m'y réveiller le dimanche dans son lit. Quand je suis arrivé, elle m'a pris à part et m'a dit « Je t'ai invité pour Sandra ». Ma cousine, son copain l'a plaqué la semaine dernière, tu es le genre de type qui doit pouvoir lui redonner le sourire. Je me souviens de Paul Lemoine, d'André Rigaud, des noms attrapés au hasard, le long du monument aux morts, de la guerre de 14, le long du Père Lachaise. Je me souviens de Marcel Bayer, de Léon Fleck, d'Albert Ballet. Mais qui se souvient de cette génération sacrifiée il y a de cela un peu plus d'un siècle. Alors là, je vous avoue une chose, auditeur de Radio Libertaire, je suis arrivé à la bourre comme d'habitude, ce qui fait que je dois taper en direct ce que je cherche comme morceau sur l'ordinateur du studio, et je vais pouvoir maintenant, je réabaisse le micro à mon niveau, je vais pouvoir maintenant vous envoyer le morceau, celui qui nous a servi déjà d'ouverture d'émission les 2 semaines précédentes. Thank you.
souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras. Tous les jours on parlera de la bande de Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras. Jamais tu n'oublieras la bande de Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras. Tous les jours on parlera de ce, tous ceux que l'on Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras. Jamais tu n'oublieras tous ceux que l'on Gaza. Redis-nous donc l'histoire, histoire qu'on s'en souvienne, histoire de revenants, que jamais l'histoire ne revienne. Redis-nous donc l'histoire, histoire qu'on s'en souvienne, histoire de revenants, que jamais l'histoire ne revienne. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras. Tous les jours on parlera de la bande de Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras. Jamais tu n'oublieras la bande de Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras. Tous les jours on parlera de ceux, tous ceux que l'on Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras. Jamais tu n'oublieras tous ceux que l'on Gaza. Si tu perds la mémoire, garde donc l'histoire. Si tu perds la mémoire, alors tu pourras bien voir. Si tu perds la mémoire, garde donc l'histoire. Si tu perds la mémoire, alors tu pourras bien voir. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras. Tous les jours on parlera de la bande de Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras. Jamais tu n'oublieras Gaza.
Du Libertaire 89,4 MHz, une chanson intitulée « Souviens-toi, souviens-toi, la bande de Gaza et tous ceux que l'on Gaza ». Une chanson pour dire que nous aimerions pouvoir tirer des leçons de l'histoire, mais en fait, d'autres préfèrent tirer tout court sur les uns, sur les autres, sur les enfants, etc. De Soutsen, magazine de créatures radiophoniques, je vois plein de monde dans le studio avec trois plateaux successifs proposés par Evelyne. Je te laisse, Evelyne, les présenter dans l'ordre que tu veux, mais je sais qu'il y en a un qui me tient à cœur par un hommage à l'un de ceux qui participa à cette émission avec tous ses instruments. Mais je te laisse, Evelyne, présenter dans l'ordre tes trois morceaux d'émission.
Alors, oui, bonjour à tous, auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, avec Michel Seul, qui était un habitué de l'émission de Soutsen, nous avions décidé de parler de Team Laser. Voilà. Alors, peut-être que ça fait un peu très redondant de parler d'hommage, mais bon, en fait, on parle de Team Laser comme d'un ami de la radio. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sont plusieurs de ses amis, sa compagne, qui sont présents pour l'évoquer, voilà, ça nous fait plaisir. Sauf que Michel Seul est excusé pour des raisons de santé, voilà. Donc, juste avant, hein, deux petites dames, hein, deux grandes dames.
Petite par la taille, oui, je sais. Bon.
Lucille Cochito, je ne sais pas comment je prononce.
Cochito.
Cochito, voilà. Qui est venu nous parler de la Nomad House. Voilà. C'est un festival qui se tient du 5 juillet au 9 à la cartoucherie de Vincennes. Alors, on va en parler. Et puis, juste après, Anne, tu feras ta petite chronique mensuelle
De théâtre.
De théâtre. Voilà, Anne Delalleux, qui est bien connue des auditrices, auditeurs.
Hein. Merci bien. Ouais, tout à fait.
Voilà, et puis
bonjour à tous.
Que Fabien adore.
Hein. Voilà, bon, bisous Fabien.
Voilà, exactement. Alors, on va commencer tout de suite avec la Nomad House. Alors, moi j'aime bien le titre. Et donc, il est question de centre culturel transnational. Je pense que le mieux, c'est que vous commenciez à présenter la Nomad House vous-même, parce que vous allez le faire mieux que moi. Moi, je découvre.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le centre culturel itinérant, la Nomad House, c'est un projet qui est cofinancé par l'Europe, qui a démarré en mars 2023, qui va se terminer là en août 2024, donc après un an et demi. Et en fait, c'est un centre culturel itinérant pour parler de la migration, donc de manière artistique et scientifique. Et donc, depuis un an et demi, on travaille avec des migrants et migrantes dans les différents pays. Donc, il y a la Belgique, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Grèce, il y a l'Italie et la Tunisie, puisque c'est la porte d'entrée de la migration. Et donc, on est 6 pays partenaires et qu'on a monté ce projet.
De
mars 2023. On a commencé en mars
2023. Voilà. C'est tout récent.
Ça fait un an et demi.
Oui, mais enfin, c'est récent.
Tout à fait.
Il me semble, oui.
Mais c'est un projet Europe Créative. Et donc, le principe, c'est effectivement, à travers les ateliers artistiques, donner une autre vision de la migration. À travers, j'allais dire, ce centre culturel itinérant, parce que il est sous chapiteau, donc c'est une caravane qui traverse les pays. Et donc, à travers l'art, on va parler de la migration. Et donc, dans chaque pays, il y a des spectacles, il y a une conférence qui a des thèmes différents selon le pays. Et puis, d'autres choses, des journées associatives, une exposition photographique et numérique, et la conférence, effectivement. Donc nous, on a l'Artistique Théâtre, donc dont je fais partie. On est partenaire français et on a travaillé surtout avec des femmes demandeuses d'asile. Pourquoi des femmes? Parce qu'on a travaillé sur la danse contemporaine et donc si on avait la mixité, on n'aurait jamais pu donner ce moment d'ouverture à ces femmes si ça avait été mixte et elles seraient jamais venues aux ateliers.
Oui, parce que elles sont toutes de cultures différentes.
Elles sont toutes de cultures différentes. Il y en a quand même beaucoup qui viennent des pays soit subsahariens, soit plus musulmans, un petit peu plus fortement musulmans, j'allais dire. Et donc la question de la mixité, évidemment, est problématique.
Ouais. Surtout que... excusez-moi de vous interrompre, le thème, il est question de viol et de meurtre aussi dans l'une des pièces.
Oui. Alors, oui.
Mais je veux dire, le contexte en plus est...
Effectivement, enfin, je veux dire, toutes les personnes qui travaillent avec les migrants et migrantes le savent. Toutes les femmes, en tout cas, qui font le chemin de la migration, donc le chemin clandestin de la migration, effectivement, c'est les violences sexuelles sont... permanente, j'allais dire. Donc, que ça soit avant la traversée, pendant les traversées, que ça soit dans la mer ou autre, ou sur terre, et à leur arrivée aussi dans nos pays, parce qu'il faut pas croire qu'une fois arrivé dans nos pays, tout va bien, Madame la Marquise, absolument pas. Donc effectivement, nous on a travaillé avec ces femmes et puis il y a eu un groupe plus important avec aussi en mixité pour monter un groupe qui allait participer au spectacle Le Songe. Donc Le Songe, c'est une réécriture du Songe d'une nuit d'été que la compagnie belge qui est le chef de file du projet Les Nouveaux Disparus ont créé. Ils se sont inspirés de témoignages aussi de migrants migrantes, et donc dans chaque pays il y a un groupe différent avec lesquels on a travaillé qui intègre l'équipe artistique du spectacle. Donc à Paris, on a un groupe de 10 personnes inclusives qui mélange des demandeurs, demandeuses d'asile, des jeunes en professionnalisation et des professionnels qui vont rejoindre l'équipe artistique sur le spectacle.
C'est en lien avec les associations, je pense aussi.
Alors nous, on a... oui, bien sûr, il y a beaucoup d'associations qui nous suivent. Alors nous, on a essentiellement travaillé avec France Terre d'Asile. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des locaux pour accueillir les ateliers et tout ça. Donc ça, on aurait bien aimé travailler aussi avec des migrants et migrantes dans la rue. Mais au niveau du lieu, parce qu'on n'a pas de théâtre nous-mêmes, donc au niveau des lieux, pour pouvoir faire les ateliers, c'était quasiment impossible. Donc on a dû se replier évidemment sur des grosses associations qui font un travail magnifique par ailleurs. Et donc, on a travaillé essentiellement avec un partenariat avec France Terre d'Asile.
Ah, voilà, c'est ça.
Tout à fait.
Et vous êtes accueillis, donc, le Nomad House est accueilli par la cartoucherie de Vincennes et le Théâtre du Soleil. Et parce que vous êtes, enfin, c'est ce qui est indiqué pour... Votre bio, que vous êtes l'assistante d'Ariane Mouchkine.
Alors, tout à fait. Donc, moi, je suis metteuse en scène et comédienne et je travaille, effectivement, j'ai ma propre compagnie, mais je travaille également, j'ai travaillé au Théâtre de l'Épée de Bois et puis j'ai travaillé au Théâtre du Soleil, je travaille toujours au Théâtre du Soleil. Et donc, j'ai assisté Ariane Mouchkine à la mise en scène sur plusieurs spectacles. Là, d'ailleurs, elles sont en création. Mais là, depuis deux spectacles, je ne suis plus assistante à la mise en scène parce que j'ai trop de travail avec la compagnie, donc je ne peux plus faire les deux. Mais je travaille toujours au sein du Théâtre du Soleil également. Et donc, effectivement, la cartoucherie, c'est un peu, j'allais dire, ma maison, puisque ça fait 30 ans que j'y travaille.
Ah oui, 30 ans quand même, oui. Ouais.
Et donc, effectivement, donc on monte, le chapiteau sera sur le devant, j'allais dire, du parking, sur le parking de la cartoucherie, qui est dédié donc à l'espace forain. Et puis également, le Théâtre de l'Épée de Bois accueille un des spectacles, donc notre spectacle, Les Filles de la Mer, notre dernier spectacle de la compagnie, qui est complètement dans les thèmes également de la migration, puisque c'est Femmes, Îles, Migration.
Voilà. C'est aussi pour sensibiliser aussi sensibiliser l'opinion sur la réalité des migrations. J'imagine, oui. Parce que bon,
tout à
c'est
fait.
Un but précis quand même.
Oui, c'est tout à fait. Et puis surtout sur les a priori et sur les a priori et puis sur sur la vision de comment on les voit, comment on les aperçoit et quels échanges on a. Ça fait nous c'est, effectivement ça fait depuis un an et demi qu'on travaille tout le temps avec elles et avec eux. Et c'est vrai qu'on c'est devenu des amis, c'est devenu on fait plus la différence entre l'un ou les autres. Oui. On se dit plus ah ça c'est des migrants. Migrantes.
Voilà. Oui, parce qu'il s'agit de personnes, finalement, si personne leur donne la parole, ben, on ne les entend pas.
Voilà.
C'est certain.
Et donc, nous, et alors, on a fait un partenariat également avec le Musée de l'Histoire de l'Immigration, là où va se tenir la conférence. Donc nous, on a choisi la conférence vraiment de parler de la migration féminine. Parce qu'il faut savoir que la migration féminine correspond à 52% de la migration. On parle que de la migration masculine, mais en fait, la migration féminine est supérieure à la migration masculine dans nos pays.
Et les enfants
Alors les enfants, on n'a pas... le chiffre exact du nombre d'enfants, hein, ils sont très nombreux. Bon, les mineurs dans la compagnie, c'est encore un autre sujet aussi avec lesquels on a travaillé également. Mais voilà, donc nous, on a décidé de vraiment de baser la conférence sur la migration féminine. Et donc, c'est le samedi 6 à 10h30 du matin, donc au musée de l'immigration. Et il y a deux chercheuses qui vont commencer, donc Camille Schmoll, qui est une chercheuse qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Les damnées de la mer » sur la migration féminine, justement. Et puis Elsa Mesconi, qui est à l'Université de Liège, en Belgique, qui font partie du consortium de la Nomad House et qui va prendre part aussi, qui est venue en atelier avec nous, etc. Donc ça, c'est la première partie de la conférence. Et la deuxième partie de la conférence, où là, il y a une table ronde avec débat avec le public, où il y a Shaula Kambatsu, donc donc de l'artistique théâtre, qui est chorégraphe
et qui travaille avec vous, hein, et qui a travaillé avec vous pour le spectacle Les Filles de la Mer.
Tout à fait. Et qui a donné les ateliers de danse contemporaine avec les femmes migrantes, justement. Et puis Koulibaly Traoré, une des demandeuses d'asile, qui fait partie du groupe du Songe et voilà, qui est en train de demander ses papiers, en tout cas, qui ne les a toujours pas. Donc voilà, c'est très compliqué.
C'est aussi un projet politique. Enfin, je veux dire, vous touchez la politique. Bon, vous le dites pas. Vous l'écrivez pas, mais c'est...
Ah ben
c'est,
si.
Oui, c'est politique, quoi, je veux dire.
C'est tout à fait, c'est
politique. Ça va complètement à l'encontre du programme de... Je sais plus comment il s'appelle, là, le Rassemblement
National. Voilà, on va même pas les nommer, je pense que c'est ma veine. C'est voilà. Une fois de trop. Mais voilà, et donc notre spectacle, notre dernier spectacle, qui s'appelle Les Filles de la Mer.
Oui.
Donc là, effectivement, c'est un spectacle de théâtre, danse et performance qu'on joue donc au Théâtre de l'Épée de Bois pour trois représentations. Et où là, effectivement, les sujets sont... Voilà, vous parliez de viol et de... Et c'est ça, ces femmes immigration, c'est des femmes qui se retrouvent en France, qui migrent pour des raisons différentes et qui vont se retrouver sur une... Mais si vous voulez, je peux vous dire le poème qui relie un peu...
Allez-y, oui.
Parce que vous parliez de poème tout à l'heure dans le couloir.
Oui, oui.
Et
monsieur, vous pouvez l'accompagner si vous voulez, hein. Et bien, vous accompagner.
Couché dans les herbes hautes par cette froide nuit de mars, je regardais la lune ronde et claire entourée d'étoiles. J'entendis un oiseau. Son chant annonciateur était troublant. Le vent se leva, puis au loin les cris déchirants de la mort. Je me suis mise à courir, de manière irrésistible, comme attirée par une force invisible. Elle était là, toute vêtue de blanc. Sa robe tachée de son sang. Un ogre lui serrait la gorge. Ses serres se resserraient sur son cou éclairé par la lune. La colombe n'avait plus de voix. Je mis la main au sol par instinct. J'ai saisi ce qui était à ma portée. Je ne me souviens plus si c'était une barre de fer, une bouteille ou un morceau de bois. Je me suis avancé vers l'homme qui était de dos. Je l'ai frappé à la tête pour qu'il lâche sa proie. Il s'est écroulé sur le côté. Je me suis penchée sur la femme vêtue de blanc. Elle ne respirait plus. L'oiseau vint se poser à ses côtés. C'est là que je me suis aperçue que j'étais trois.
Merci.
Merci.
Oui, parce que vous êtes autrice, auteur.
Bon, autrice.
Auteur,
oui. Comme vous. Moi, j'aime bien autrice.
Bon, ben voilà, chacun aime. On a le choix. Du spectacle Filles de la Mer.
Voilà, et donc là, le poème, je trouve qu'il il définit bien ce que c'est et quel est le sujet, en fait, et de la pièce. Et donc, il y a un fil rouge qui est le procès, mais qui est en voix off, qu'on n'entend pas, mais qui permet de rappeler les faits. Et on va rentrer dans l'univers de ces trois femmes. La quatrième étant plus là, mais c'est quatre femmes aussi. Parce
au départ,
qu'elle est en
il y en
vidéo.
Avait quatre et maintenant, il y en a plus. Oui, d'accord.
Voilà, il y en a une qui meurt, mais elle est en vidéo aussi. Donc, on va vraiment se plonger dans l'univers de ces quatre femmes. Et puis, c'est donc le procès en cheminement de ces trois femmes.
Alors, ce festival, donc, il se déroule à la cartoucherie de Vincennes.
Oui.
Il y a une navette. Hein,
alors,
non, il n'y a pas de navette.
Oui, je t'interromps. En fait, il n'y a plus de navette parce qu'au mois de juillet, donc tous les autres théâtres sont fermés. Il n'y a plus de programmation.
Alors, je vais faire de la pub pour un bus.
Il y a un bus. Il y a le
112.
Il y a le bus 112.
Le bus 112. Voilà. Alors, il faut descendre à Château de Vincennes.
Oui.
Et vous prenez le bus 112. Qui vous arrête à la cartoucherie.
Oui, voilà. où il y a une station de Vélib aussi, électrique et non électrique.
Ah bon ?
Et oui, il y a une grande station de Vélib. Donc,
ça marche, les Vélib, là, en ce moment ? Oui,
très bien. Et c'est très agréable, s'il ne pleut pas, quoi, s'il s'arrête de pleuvoir. Et donc, c'est à la cartoucherie. Alors, vous dites la cartoucherie de Vincennes, mais
c'est pas Vincennes,
c'est
Paris.
Mais c'est la cartoucherie dans le bois de Vincennes. Voilà, tout à fait.
Et donc, c'est gratuit, c'est totalement,
totalement
gratuit.
Tous les spectacles sont gratuits.
Comme vous voudrez. Tout à fait. Gratuit, oui.
Oui, tout est gratuit, les spectacles, la conférence. Et le dimanche, on a une journée associative où il y aura de nombreuses associations qui seront là avec nous. Donc, des associations qui luttent donc, pour la mise à l'abri des migrants migrantes, qui luttent contre les violences faites aux femmes. Il y a vraiment une panoplie d'associations, une dizaine d'associations. Il y a Parler en paix aussi, qui prône la paix au Moyen-Orient. Donc, il y a de nombreuses associations. Et donc là, c'est complètement libre aussi. Et puis, il y aura une scène ouverte avec justement les migrants, migrantes, artistes
qui vont présenter
des petits morceaux, des solos, des choses.
Ah, une scène ouverte OQTF. Annie, vous pouvez aller à la scène ouverte.
Hein? Merci.
Voilà, et donc, tout est gratuit, on vous attend nombreuses et nombreux.
Alors, il doit y avoir un site où on peut retrouver toutes les informations.
Il y a notre site, donc c'est artistique-théâtre.fr. Sinon, il y a le site de la Nomad House, c'est lanomadhouse.com. Et sinon, il y a un email. Mais si vous allez sur notre site, vous allez trouver toutes les informations. Il y a moyen de réserver. Donc, les réservations sont quand même préférables parce qu'il y a des jauges limitées. Il y a déjà des représentations qui sont pleines. Et donc, ça, c'est sur LOASO. Mais si vous allez sur le site, il y a des liens. Vous pouvez cliquer tout de suite et vous réserver gratuitement sur LOASO les places.
Alors, il y a deux pièces de théâtre. Donc, il y a Le Songe et Les Filles de la Mer. Et donc, ça se passe du 5 juillet au 9 juillet. Moi, sur mon site théâtral, j'en ai également parlé. Théâtreauvent.com. Voilà, vous trouvez les informations aussi. Voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup. Et j'incite vraiment les auditeurs, auditrices à se rendre à ce festival parce qu'ils vont faire beaucoup de rencontres, certainement très, très importantes. Et puis, je signale que le théâtre de l'Épée de Bois est magnifique.
Tout à fait.
C'est un beau lieu, d'ailleurs. C'est un très beau lieu.
Il faut vraiment même profiter de l'occasion pour découvrir ce théâtre. Alors, il y a des salles en pierre, des salles en bois.
Nous serons dans la salle en pierre.
La salle en pierre. Mmh. C'est vraiment un très, très beau théâtre. Et puis, ce sera aussi dehors. Alors, le chapiteau.
Le chapiteau est dehors, évidemment. Il y aura un bar qui sera à l'extérieur aussi. J'en profite pour dire qu'il y a une petite restauration. Enfin, il y a une restauration et à boire également, qui seront à des prix tout à fait démocratiques, justement, pour permettre à tout niveau, j'allais dire, des personnes qui viennent de pouvoir, avec même des petits prix. C'est tout
c'est
à fait
très
démocratique.
Abordable.
Tout à fait.
Voilà. Mais merci beaucoup pour cette présentation.
De rien, merci à vous.
Merci.
Alors, puisque, avant de passer à toi,
oui, bien sûr.
On va peut-être passer un peu de musique, justement, profiter, puisqu'on a plein de musiciens ici. Est-ce qu'on pourrait mettre, alors il est très court, le duo musical Michel Seul et Tim Lazer, c'est très court, je crois, de mémoire. C'est assez court. Thank you. Alors, on va poursuivre la petite chronique théâtrale de
mademoiselle Anne.
Voilà. Si vous voulez l'accompagner, vous pouvez. Hein, oh, bah vous exercez, hein, c'est pas grave. Voilà.
Ah bah justement, vous pourrez peut-être m'accompagner, parce que c'est intéressant, parce que je vais parler de Joseph Kessel. Il y a un seul en scène sur Joseph Kessel, grand écrivain, grand aventurier, grand amateur d'alcool, un peu trop d'ailleurs, de femmes aussi, d'accord, bon, ça c'est moins grave, et il a été quand même élu à l'Académie française. Donc c'est l'histoire de Kessel, écrivain, reporter, qui a traversé le XXe siècle, les deux guerres, bon, qui a eu des problèmes... familiaux aussi, et donc avec son neveu, le célèbre Maurice Druon, ils ont composé justement, et avec Anna Marley à la guitare, elle avait composé le chant des partisans.
Allez, amis, entends-tu
le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Donc il avait donc composé ça, c'était le chant des résistants.
Bah oui.
Voilà, ben bah oui. Donc, on a toutes, pendant une heure et quart, Franck Desmet se coule et s'approprie le personnage de Kessel. Il donne vie à ce personnage et à d'autres personnages aussi qui... alors, il imite très bien le général de Gaulle, il imite très bien Francis Huster aussi.
Ah bon?
Oui, oui, vers la fin, bah oui. Et donc, il donne vie aussi à Germaine Sablon, qui était sa compagne et elle a été la première à chanter le chant des partisans. Germaine Sablon, pour ceux qui ne connaissent pas, était la sœur de Jean Sablon. C'était un chanteur préféré de papa, ça, tu vois. Donc,
c'est
ça,
ton père,
de mon papounet. Oui.
Oui, d'accord.
Mais oui.
Donc, oui, bon, Jean Sablon, ça fait un peu.
Ça fait pas jeune. Bon,
ça
d'accord.
Fait pas jeune. Oui. Bon,
c'est la station de métro, ça t'aura pas
dit. Non. Même pas. Non. Donc ce seul en scène avec cet histrion de Franck Desmet qui arrive à tout faire et qui est vraiment génial.
Il est directeur du théâtre de la Huchette.
De la Huchette, bien sûr. Donc, il a le temps de faire des seuls en scène au Rive Gauche. Donc, ça se déroule au théâtre Rive Gauche. Ça va partir à Avignon et il reviendra à Paris, au Rive Gauche aussi, jusqu'en décembre à peu près. Et après, il aura encore un autre seul en scène. Mais là, je vous invite vraiment à aller voir ce spectacle parce que il se coule tellement, tellement dans le personnage de Kessel, qui était quand même un sacré personnage, quelqu'un d'intéressant. Qui a quand même écrit le Lion, les Cavaliers. On l'avait vu au théâtre, tu l'avais pas vu, toi, je sais plus.
Non, j'ai pas vu.
Il avait écrit tellement de choses aussi pour le cinéma, pour la télé. Donc, c'est vraiment quelqu'un de passionnant déjà à lire et même à voir son histoire, sa vie passionnante. Et donc, je vous invite à aller au Rive Gauche au moins avant le 27 juin parce que je crois que c'est la dernière après. Là, tous les théâtres commencent à plier bagages, ou pour Avignon, ou pour les JO. Moi, je vous préviens tout de suite, je ne me présente pas pour les JO, je suis nulle, mais vraiment. Et puis donc, alors j'ai autre chose, ah oui, alors il y aura aussi au Poche Montparnasse, il y a des seuls en scène, on avait reçu Myriam Boyer, tu te souviens?
Oui.
Et elle continue le dimanche, donc Je me souviens, ça s'appelle d'ailleurs.
Oui,
c'est sympathique.
Oui, voilà, Je me souviens.
Des poèmes, des chansons.
Oui, oui.
Et il y a aussi un seul en scène le dimanche qui s'appelle Valentine Tessier raconte sa vie de théâtre. Et ça aussi, c'est un témoignage recueilli et interprété par Philippe Catoire, qui interprète le rôle de Valentine Tessier.
Oui, c'est un grand comédien.
Oui, oui. Et qui est vraiment aussi passionnant parce que vraiment... on ne fait même plus attention si c'est Valentine ou si c'est lui. Mais c'est vraiment très, très bien aussi à voir. Je vous le conseille.
D'accord.
Voilà. Eh bien, j'en ai fini pour ma petite chronique théâtrale.
Alors...
Bonnes vacances à tous.
Non, on n'est pas en vacances. Hein. Enfin,
bon si, festival oui. Aux uns et aux autres.
Alors, on va donc lancer les hostilités, comme on dit. On a la chance donc d'avoir Isabelle Sauchère qui a aussi une actualité hein, parce que elle est souvent au connétable, hein, c'est vu ça. Et la semaine dernière, on recevait justement un ancien directeur du connétable. Voilà. Et on a eu l'occasion justement de parler de Isabelle Sauchère.
Ah bon.
Oui. Enfin. Et voilà. Donc Isabelle Sauchère qui était
Sauchère.
Et donc, la compagne de Tim, si tu as envie de dire un mot sur Tim...
Faut peut-être que tous les auditeurs ne savent pas qui était Tim Lazer.
Voilà, peut-être commencer par le présenter.
Oui, voilà, on va... Eh ben, présente-le.
Voilà, vas-y. Alors Tim Lazer, alors déjà l'orthographe, il y a 36 orthographes.
Oui, alors il y a Lazer. Z, il y a S, oui.
Voilà, les dernières années de sa vie, il écrivait Lazer, L-A-Z-E-R. Avant ça, c'est écrit S-E-R. Je dis ça pour les gens qui voudraient chercher, parce que c'est une
jungle. Mais oui, j'ai remarqué que ça...
Trouver Tim Lazer sur Internet, il a beaucoup d'homonymes. Il a notamment un homonyme avec un Z, un verrier anglais.
Oui, ça n'a rien à voir. Oui, enfin,
c'est pas donc, grave. Pour trouver Tim... Et puis alors, il y avait des sites... On en parlait avant l'émission, qui n'ont pas été, sur lesquels Tim n'avait pas la main, moi non plus, etc. Donc, qui ont cessé d'exister, parce que, enfin, voilà, il y a eu les... Donc, il est... Voilà. Mais pour retrouver Tim Lazer, alors, on peut le trouver...
Sur YouTube, quand même.
Oui, alors, sur YouTube, mais à plein d'orthographes, sur plein de différentes... On va regrouper...
Il y a aussi le Team, c'est pas T-I-M, c'est T-E-A-M.
Ah oui, c'est au pas début, la première équipe. Oui. Oh là voilà, là. En fait, alors, donc Team, là, donc, voilà, déjà on va le présenter. C'est un artiste polyvalent, enfin pluridisciplinaire, comme on dit. Il est surtout musicien, enfin, il est luthier, musicien. Il dessine au début de sa vie, il crée un personnage, il fait des films à partir de ce personnage. En tant que luthier, il fait pas des guitares de A à Z, mais il customise des guitares dans des styles très un peu, enfin il a plusieurs styles, mais post-apocalyptique. Il invente dans les années 90 la notion de combat de guitare, c'est-à-dire qu'il décide qu'il veut remplacer les guerres, enfin par des combats de guitare, donc il organise. Et là, il y en a partout sur Internet, mais c'est disséminé sur plein de comptes. Des choses, ce sont des sortes de concerts où ils se battent à coups de guitare, il y a de la fumée. Voilà, c'est une sorte de sublimation. Oui. Une sublimation artistique et musicale de la violence. Et
il avait beaucoup voyagé, quand même.
Beaucoup voyagé. Il a fait 6 longs voyages en Inde. Donc, ça a beaucoup influencé sa musique, parce que, enfin, on en parlera après de Shaman Bottle. Après, je laisserai les membres de Shaman Bottle en parler. Mais enfin, voilà, c'est ce qu'on a. S'il fallait définir, ce serait plus une musique d'influence. Comment on dit, trip-hop, à un moment on disait trip-hop, world music, c'est, enfin en tout cas l'influence d'Inde, l'Inde est très importante dans l'influence, oui, voilà. Oui. Mais donc pour finir sur Tim Lazer, voilà, donc il fait de la il est pas compositeur, il invente des concepts musicaux.
Chercheur.
Voilà, il est chercheur musical, voilà. Il invente des c'est-à-dire qu'il fait pas, il écrit pas une partition.
Il a quand même été chef de file d'un groupe.
Enfin, de plusieurs groupes, il a eu plein de groupes.
Celui donc que je connais le plus, c'est Shaman Bottle. Enfin, je le connais pas vraiment, mais j'en...
Bottle.
Et donc c'est tout. Tim Lazer, c'est de la musique, mais c'est tout un style.
Ouais.
Il disait, c'est un style, une esthétique. C'est-à-dire que Tim Lazer, c'était aussi très visuel. Il avait un sens déjà photographique énorme. C'est dommage qu'on puisse plus le
on
site
est à la radio, oui.
Sur mais... lequel non, mais je sais bien parce que les gens regardent quand ils écoutent la radio, ils tapent sur Internet.
Oui.
Mais par exemple, le site sur lequel il présentait ses guitares et qu'il faudra reconstituer,
oui.
Il faisait des photos au fisheye, c'est-à-dire tu te souviens des photos arrondies. Enfin, il avait un sens esthétique. Il faisait une composition. C'est vraiment voilà.
Oui, oui. D'accord.
Donc voilà qui était Tim Lazer.
Alors, pour les auditeurs, auditrices qui ne le connaissaient pas, j'ai récupéré un petit interview dans une émission de Soutsen où il répond à la question « Que feriez-vous si vous étiez, alors j'allais dire président de la République, non, ministre de la Culture ?» Alors, c'était une réponse à une question de Jean-Marie Blanche. Parce qu'on était allé voir une pièce de théâtre de Carole Fréchette, une autrice canadienne. Alors, je ne me rappelle plus du titre. Enfin, c'était l'histoire d'un personnage qui faisait tous les métiers. Enfin, était au chômage, mais après, il faisait tous les métiers. Et à un moment donné, je ne sais pas s'il se révolte, mais un petit peu. Et il y a comme une chanson où le personnage dit tout ce qu'il ferait s'il était ministre de la Culture. Ah non, il imagine une journée sans théâtre, sans art, sans théâtre, sans musée, sans télé, sans ceci, sans cela. Et qu'est-ce que ce serait une journée si on effaçait complètement la culture ? Et donc, pour répondre, alors après on a dit, mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre de la Culture ? Et Tim Lazer répond.
Ministre de la Culture, j'espère que j'aurais été tiré au sort, d'abord, que j'aurais pas été nommé. Bon, ça c'est bien. Et puis ensuite, je pense à André Malraux qui a monté FIP. Je crois qu'il a été ministre de la Culture. Je pense, et moi j'écoute beaucoup Philippe, donc j'aime beaucoup en gros. Je fais un peu d'historique. Je pense à Jack Lang, qui avait fait la fête de la musique. Donc ça, c'est deux ministres. Alors les autres, je sais pas, les autres ministres, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Je sais pas même qui est leur nom. En fait, je le connais pas trop. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Mitterrand, mais c'est pas le même que le président.
Ah non, là c'est le Frédéric.
Voilà, et je crois qu'il n'est pas connu.
Oui, monsieur Sarkozy.
Personne ne se souvient vraiment de son passage.
Ouais.
Et moi je pense qu'il faudrait rappeler que la culture, c'est peut-être d'abord les principes de Sri Aurobindo que personne n'a compris, qui sont que pour arriver dans le délice, il faut la parole juste, la pensée juste. Et l'action juste. Mm-hmm. Donc ça, c'est quelque chose de moi que j'aime beaucoup. Je le rappelle à Sri Aurobindo à Auroville en particulier. Je pense à Pondichéry en Inde. Et il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce sont les livres qu'a écrit Fourier. Donc j'aime beaucoup les livres. Et je suis fourriériste moi-même. Et donc je pense que les gens qui enfin, si j'étais ministre de la Culture, je rendrais l'amour sexuel obligatoire, bah oui, bien sûr. Obligatoire, mais pas par la force, par l'amour. Et je rendrais aussi l'amitié obligatoire, mais évidemment, c'est un peu compliqué.
Obligatoire. Oh, non.
Et je rendrais aussi les rapports intrafamiliaux. Que les rapports soient fluides, ça me paraît vraiment très important. Et puis que si je rendrais aussi obligatoire que les gens y soient un petit peu fiers d'eux et que les autres disent du bien des autres.
Ah ouais. Ouais, c'est sympa.
Voilà mon programme.
Mmh. Et Tim ne fut jamais ministre de la Culture.
Et toi, Jean-Marie?
Vas-y.
Ah non, moi je refuse.
Bah ouais, elle n'a pas le droit.
C'est pour ça qu'il faut mieux le tirer au sort comme ça.
Ah non, je veux pas être ministre.
Ça, c'est la nouvelle mode. Hein, on est contre l'élection, on est pour le tirage au sort. L'élection est en fait comme chez les Grecs de l'époque égyptienne, vois, c'est-à-dire Athènes, pas Sparte, hein, parce que Sparte, c'est vraiment des gros méchants. Hein.
Mais il n'y avait pas de femmes.
Bon.
Non. Il n'y avait jamais de femmes. On tirait au sort, bon, mais par les hommes. Parmi les hommes.
Alors, Jean-Marie Blanche. Ah tiens, c'est justement parce qu'on parlait de Jean-Marie Blanche. Pendant que vous vous préparez à faire un petit morceau de musical, hein, voilà, on va passer donc un extrait de Étranger de Brévert, alors avec la participation des musiciens, justement, à l'époque. Voilà. Le team et
étranges étrangers. Kabyles de la chapelle et des quais de Javel. Hommes des pays loin, cobayes des colonies. Doux petits musiciens, soleils adolescents de la porte d'Italie, boumiants de la porte de Saint-Ouen, apatrides d'Aubervilliers, brûleurs des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteurs des bêtes tombées mortes sur pied au beau milieu des rues. Tunisiens de Grenelle, embauchés, débauchés, manœuvres désœuvrées, Polacs du Marais, du Temple, des Rosiers, cordonniers de Cordoue, souliers de Barcelone, pêcheurs des Baléares ou bien du Finistère, rescapés de Franco et déportés de France et de Navarre pour avoir défendu en souvenir de la vôtre la liberté des autres. « esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer tous les échos de vos villages, tous les oiseaux de vos forêts. Et ne venez pas dans la capitale pour fêter au pas cadencé la prise de la Bastille. Ah ! Lundi prochain, le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés, naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants trop tôt grandis et si vite en allée, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage contre terre, et des bombes incendiaires labourant vos rizières, on vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de la vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. Ne rêvez pas.
Alors, c'est un extrait, hein, de... C'est un extrait de Étranges étrangers. Je ne sais pas, mais en entier, parce que je ne savais pas combien de temps on avait. Et donc, c'était improvisé et enregistré ici. Et une impro totale. Jean-Marie, Tim, Michel, etc. Voilà. Alors, Vincent.
Oui. C'est moi.
C'est toi. Tu vas présenter le morceau du disque que tu viens de me passer.
Ok, ok. du coup, c'est le début de la formation. On était que tous les deux avec Tim. On s'est appelé Vincent Tim, mais bon, c'était pas terrible quand même, mais on l'a quand même fait. Et au bout d'un moment, on a fait une mini tournée bretonne, et c'est là que le nom a émergé, c'est là que Tim a trouvé ce nom, Shaman Bottle. Du coup, ce qu'on va écouter, c'est le premier enregistrement qu'on a fait ensemble, et le morceau s'appelle Live and Die. Alors voilà, alors je me suis trompé en fait, le premier titre c'était pas du tout Live and Die, là c'est Break It Now, you know. Bon voilà, c'était un exemple, j'aurais bien aimé entendre, mais on verra peut-être plus tard dans l'émission, Live and Die, parce que je trouve que c'est un très beau titre. Alors Zdev, tu voulais nous dire quelque chose, toi?
Bonjour, alors déjà ça fait 23 minutes que nous sommes autour de cette table et on ne sait même pas qui est autour de cette table.
Ah, alors
bien sûr, mais non, on n'a pas été présenté, aucun de nous n'a été présenté, on ne sait pas. Donc il y a quelques représentants, justement les musiciens de Shaman Bottle, donc avec, qui ont joué justement avec Tim. Et hélas, il n'y a pas Michel Sulz qu'on a entendu tout à l'heure parce qu'il est un petit peu, il est un peu fatigué. Donc, hélas, on devait faire aussi, il devait être là parmi nous pour jouer de la flûte et nous accompagner pour faire de la musique. On va faire aussi, bien sûr, de la musique, mais hélas, sans lui, qui était quand même aussi une figure, une de proue.
Qui est toujours une figure.
Oui, qui est toujours, bien sûr, mais il n'est pas présent parmi nous pour pouvoir partager aussi l'expérience.
Eh ben, il reviendra, j'espère.
Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, ben, moi, je vais présenter. Ben, il y a le petit comité, hélas, que l'on est. Il y a Vincent qui était à la guitare. Il y a Annie Falcon qui maintenant fait la basse avec nous quand on essaye de faire des hommages. Quand nous faisons des hommages à Tim assez le plus souvent possible, on essaye. Et bien sûr, il y a Isabelle qu'on a entendu qui a présenté Tim déjà. Et puis il y a moi, Zdev, qui était le bassiste au début, le percussionniste et le bassiste. Voilà, donc. On va tenter après voilà, de faire peut-être un petit peu de musique. Alors, je voulais revenir, moi, quelques instants, justement, sur son parcours et qu'est-ce qui a fait, alors selon moi, bien sûr, parce qu'il y a aussi une petite parenthèse, c'est que chacun qui devrait faire la biographie de Tim la ferait à chaque fois à sa manière. C'est-à-dire qu'on a entendu tout à l'heure Isabelle en parler très bien, mais si nous devions interviewer chacun d'entre nous, chacun dirait presque autre chose du ressenti qu'il a pu transmettre à chacun.
Bah oui, mais c'est pas mal. Oui.
Ah bah oui, mais c'est ça qui est fort chez lui. C'est cette chacun, comme on avait dit, considère que c'est son grand frère parce que il y a eu à chaque fois il y avait ce rapport privilégié quand on discutait avec lui, vraiment où il rentrait au fond de nous-mêmes et il y avait un vrai échange. C'était pas, il prenait pas ça à la légère. Alors, ce que je trouve intéressant dans son parcours, c'est que il a eu, je peux dire, trois phases, on pourrait dire. Alors, moi, que j'ai ressenti, bien sûr, ceux qui le connaissent de plus près pourraient trouver encore d'autres éléments. En fait, déjà, je pourrais dire par rapport à son esprit, c'est-à-dire qu'il a le mélange de l'esprit libertaire, un peu, voilà, libertaire, et mélangé à la spiritualité et la, alors, je dirais, sagesse cosmique, parce que il y avait une espèce d'élévation. Alors, c'est pourtant un peu contradictoire entre un punk et un sage. Mais pourtant, c'est ce qu'il arrivait, je trouve, à mélanger. Et en fait, ce que je remarque par rapport à son parcours musical, c'est que entre ses 18 ans et le finish, il y a eu trois phases en fait qui amènent. Avec la première, justement, quand il a 18 ans, on a un 45 tours. On avait entendu le.
Dans 25 ans, ça,
c'est 25 ans. Bon, 25 ans, même, c'est pas. À 25 ans, il chante.
La variété.
La variété, mais il chantait l'amour, il chantait la joie, les choses amusantes.
Bah, il était 25 ans, oui.
Bien sûr. Ouais. Oui, mais après, il est passé à. Alors, je vais dire 35 ans, mais c'est pour montrer les phases. Il est passé à De Chavannes, l'émission de Chavannes. Et c'était très amusant, il était venu avec ses guitares post-nucléaires.
Ah, il est allé chez De Chavannes.
Ouais, c'était incroyable. Oui, l'émission est encore sur Internet, elle est incroyable.
Avec Billy Idol.
Avec Billy Idol. Il vient avec ses guitares post-nucléaires, il en propose à Patrice Carmouze, à De Chavannes, qui s'arnache de la guitare. Et c'est-à-dire qu'il avait même cette envie de cette transmission, c'est-à-dire qu'en un instant, même De Chavannes pouvait ressentir la guitare post-nucléaire et ressentir toute la folie.
Je ne connaissais pas ce terme post-nucléaire. Ah ouais, guitare. C'est connu, mais moi, je ne connais pas.
Même il pourrait dire post-apocalyptique, enfin
bon,
c'est pour, de dire que c'est un autre, on passe un autre.
D'accord. Et
donc il y a eu cette phase de ses 30 ans où il était dans cette recherche, on va dire post-nucléaire ou un petit peu alternative, pour à la fin, donc on était passé de l'amour à la musique alternative, pour à la fin son dernier concert en date, que l'on a, c'était au Cri du Singe. Il était avec sa guitare tout seul, sa guitare sitar, donc qu'il fabriquait lui-même parce que avec peut-être une boîte à rythme, et lui tout seul a joué. Avec une musique qui est la musique indienne, qui est la musique des zen atmosphériques, qui était beaucoup plus spirituelle. Et c'est ce que je trouve intéressant dans son parcours, c'est de commencer à 18 ans, évidemment, comme nous faisons tous, mais c'est presque plutôt que, alors je ne veux pas critiquer Alain Souchon et nos chanteurs français, mais il reste dans une espèce de permanence, mais qui est sympathique. Alors que Tim Lazer, il y a vraiment une évolution de la pop, musique pop gentille à finalement à la fin une musique complètement spirituelle et fluide, et même ce qu'on jouait avec avec lui, c'était justement cette spiritualité atmosphérique, ou ce trip hop comme on peut dire un peu aujourd'hui. Donc de l'amour, il est passé au rock et au punk. Et il arrive après la spiritualité, l'élévation. Et quand on écoutait ses derniers lives, il y avait vraiment un repos personnel, et on était pris vraiment d'autres choses, d'ondes cosmiques, plutôt que d'autres périodes. Donc c'est cet enseignement que je trouve très riche déjà, le fait qu'il a eu un vrai parcours, et il y a une évolution, et qui permet aujourd'hui finalement de ressentir. Alors j'en parlerai un peu plus tard, je vais pas faire un monologue tout de suite, mais parce que là j'en fais déjà un, et je suis désolé. Oui, je suis en train d'en faire, je suis désolé. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en parlerai, pourquoi est-ce que Tim Lazer a du sens aujourd'hui et pour demain aussi? Pourquoi est-ce que sa vibration, sa philosophie, encore moi, me touche? Et Annie, qui est présente ici, sait que je le mentionne plusieurs fois par semaine, parce qu'il y a tellement de notions qu'il a pu nous apporter, qu'elles sont encore aujourd'hui très fortes, et moi, me permettent de vivre, et de vivre jusqu'à la fin de mes jours. C'est-à-dire que les notions qu'il m'a données, que je vous dirai tout à l'heure, si vous êtes encore à l'écoute, permettent une élévation et de se sentir bien avec le monde et avec tout le monde.
Je pense quand même qu'il a été très marqué par ses voyages en Inde.
Bien sûr. Mais c'était pas 18 ans qu'il a fait ses voyages. Donc c'est
sans doute.
Mais pour chacun, c'est-à-dire qu'on a tous un parcours initiatique. Mais qu'est-ce qu'on en fait, ce parcours? Est-ce qu'on reste le même, ou est-ce qu'on transforme même sa vie, sa musique ou sa philosophie avec son voyage? Et donc lui, c'était vraiment il y a quand même un écart entre la chanson sympathique FM pour après une musique spirituelle complètement spirituelle.
C'est vrai qu'on peut, effectivement, ça fait un grand bond. Effectivement, c'est pas du tout le même registre, ça c'est certain. Je me posais la question quand même, parce que est-ce qu'à un moment donné, alors là c'est pas forcément intéressant comme question, mais justement, quand il est passé chez De Chavannes, est-ce qu'il n'a pas eu envie de devenir une vedette?
Alors, je pourrais laisser Vincent en parler, mais tu veux que je vais être un peu global. C'est-à-dire que c'est vrai que quand il avait 30 ans, il était très enthousiaste, très, très dynamique. Et alors, comme il était luthier aussi, il avait une manière de concevoir la lutherie qui ne plaisait pas à tout le monde. Moi, que je trouvais très intéressante et très, très sensible. Mais il a pu se faire quelques ennemis au sein de l'univers musical, qui a fait qu'il s'est retranché et a préféré développer son intimité finalement et son état d'esprit au détriment de la pop musique
du star
system. C'est-à-dire
non, il est sorti du... Il n'est pas rentré dans le star system. Alors,
justement, Isabelle, ici présente, va nous dire peut-être le contraire. Vas-y.
Si, très jeune, il a eu envie d'être dans le star system. Absolument. Ah, son 45 tours, il était tout...
Oui, voilà, c'est ça. J'ai eu l'impression quand même.
Bien sûr.
Oui.
Et c'était pas mal d'ailleurs de ce. Tout le monde réussit pas. Mais ça n'a pas marché comme il aurait voulu à l'époque, mais il était très jeune, voilà, etc. Et c'est, du coup, il s'est remis en question. Il est devenu luthier à 30 ans, effectivement. Tout ça, c'est un long cheminement. Voilà, il y a une évolution, mais bien sûr. Et après, il reniait complètement cette période variété, par exemple.
Oui.
Ce 45 tours-là qu'il a fait à 25 ans, que je trouve pas si mal, je trouve même que c'est un tube, selon les critères d'un tube de variété.
Oui.
Eh bien, il me l'a jamais fait écouter de son vivant.
Ah, oui.
Il m'a dit qu'il n'avait pas le disque. Et quand il est mort... j'ai dû aller... Il fallait trouver des papiers. Et là, j'ai ouvert un placard que j'avais jamais ouvert. Parce que c'était ses affaires. Et là, la première chose qui est tombée dans mes mains, c'est le 45 tours...
Oh,
qui prétendait ne pas avoir.
Que tu l'as pas apporté.
On peut le trouver. Mais je crois qu'en fait, il
reniait.
Voilà, il reniait. Et moi, j'essayais de lui dire, attends, un musicien, tout artiste, c'est un développement, et c'est tout à fait normal, et c'est très bien d'avoir commencé par la variété. Il fallait commencer quelque part, et il y a une évolution. Mais il avait du mal avec ça.
Oui, c'est ça.
Et je trouve qu'il avait. J'étais pas d'accord avec ça, mais bon. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais rectifier. Il a eu très envie. Et puis après. Il est passé dans l'alternatif, il est passé dans
la spiritualité même, on peut dire, par ses voyages en Inde ou en...
En même temps, il disait, rappelle-toi, il disait toujours, je suis pas mystique. Alors, il était très ambigu.
Oui.
Il faisait des choses comme ça et il prétend... Voilà, il était...
Tout même, le titre de son groupe, Shaman
Battle.
Chaman, c'est ça, c'est une référence au chamanisme.
Bien sûr.
Voilà,
bien sûr. Clairement.
Il s'intéressait au chamanisme, il prétendait qu'il était pas... Enfin, il était...
sans être... il rentrait pas dans le... Peut-être pas... C'était le chamanisme vu de sa propre perception.
Voilà. Exactement.
Et c'est ça qui est la force de Tim Laser, c'est justement de pouvoir, avec son expérience personnelle, d'en faire une expérience collective, c'est-à-dire transmettre ses idées. Et je trouve justement que, plutôt qu'évidemment les philosophes que l'on peut connaître ou les grands sages, il a cette sagesse contemporaine de enfin, je dis pas de la rue.
C'était
parce
pas
que
dogmatique. Hein. Il n'était pas dogmatique.
Exactement. Et c'était à piocher, c'est si on voulait, et ça permet. Et justement, on a ce ressenti. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est l'influence de ces paroles qui résonnent encore. Alors, on va en parler peut-être. On va peut-être écouter quelque chose, non? C'est ça que vous vouliez.
Bah, hein? Je sais pas. Moi, j'avais un poème,
oui,
qu'il a illustré musicalement, et j'aime beaucoup la musique. Bon, ça m'ennuie parce que c'est moi qui suis en train de dire le texte, mais bon, je sais pas, le texte. C'est... Mais en fait, je fais la part des choses entre. C'est la musique, et j'aime beaucoup la musique. Oui, pourquoi pas, mais après, ce que je voudrais, c'est vous entendre faire un morceau tous les trois, donc Zdev,
Annie
et Vincent, et donc ce sera un morceau qui est inspiré par Tim.
Ah, complètement.
Complètement.
En fait, c'est même pas inspiré, c'est le fluide qui transmet musical que l'on resserre.
Il y a un titre ou c'est une impro?
Ah là, ça va être de l'impro... Une impro, ouais. mais sur des bases, c'est-à-dire qu'on répétait quand même toutes les semaines, c'est-à-dire qu'on a fait que des improvisations, mais on répétait toutes les semaines. Et on répétait pendant 5 heures ou 6 heures, mais c'était très agréable. Donc, on avait comment tu peux dire, Vincent, un fluide qui permettait d'avoir, on avait un canal, mais dessus, on pouvait venir se greffer parce qu'on savait quand même un petit peu où est-ce qu'on allait. C'était pas une impro totale où c'était, il y avait certaines notes, ou certaines, là, on a la tempura qui est ici, il y a certaines notes quand même. Ah, elle marche plus. Ah, pardon.
Il y a
quand même cette note de base.
Bah justement, on va l'entendre dans le morceau qu'on va passer,
ah oui,
parce que c'est une impro aussi.
Oui.
Ça a été enregistré dans l'appartement de Tim,
son atelier.
Ouais. Et c'était une impro. Il n'y a eu qu'une seule prise. Ça s'appelle Voyage Vietnam. Vietnam. Tu as barbouillé tes songes, habillant les voix de femmes recroquevillées, plus étonnées qu'une étincelle d'eau s'échappant du chapeau d'une paysanne courbée dans la rizière. Un grain de riz glisse de ton œil ouvert. Aurais-tu peur? Tu bascules de l'idée à la forme, sans le moindre effort. Il ne recueille plus le grain de riz. L'étendue d'une rizière couvre le visage d'une femme vietnamienne. Les mots ont l'allure d'insectes qui se faufilent à pente douce, comme les lézards au-dessus des marches. L'heure est un lézard, ce qu'un rayon de soleil est à une plante d'eau. Et ma voix sort du filtre, encore poisseuse, humide, étrangère. Elle a 10 000 kilomètres et la couleur de la queue d'un dragon qui se serait soulevé pour lécher la montagne. Roseau qui penche contre une pensée musclée. Des hommes prisonniers apprivoisent la nature qui déborde en grimpant au-dessus des barbelés.
Ils ont tous un cousin dont le nom signifierait « ciel » dans une nouvelle langue. Tu es devenue une plante. Il faut te caresser pour t'entendre. Il faut te maudire pour te dire. Enfin, sourire à l'intérieur de la vague.
Blanche. Oui, voilà, donc c'était un poème que je disais et il en a illustré avec Michel seul une bonne huitaine, dizaine, et tout une seule prise, chaque fois. Voilà. C'était quand même... c'était de l'impro, quand même. Et ça, c'était pas trop mal. Hein. Moi,
musique concrète.
Mais même nos albums n'étaient que des impros. C'est-à-dire, on a fait trois albums et les 15 chansons étaient à chaque fois des impros qu'on prenait et on les gardait parce qu'elles étaient on les trouvait intéressantes. Systématiquement, il n'y a jamais eu de composition. C'était tout le temps, hop, en une fois. Donc, et je crois que c'est ce qu'il a fait un petit peu tout le temps. C'est ça qui était intéressant.
Oui. Alors, une première, une deuxième, une troisième, une quatrième...
Annie,
Zev et Vincent vont nous interpréter. Alors, les instruments, une guitare.
Une tempura.
Une
tempura.
Une tempura.
Qui est ça, qui donne la note. Qui donne la note.
Ah,
voilà. Mi bémol, mais normalement c'est la 427.
Ouais. Et un petit tambourin. 432, un petit tambour, comment ça s'appelle?
Oui, une petite percussion.
Une percussion. Voilà.
Et voilà, il y a des petites cloches.
C'est pas un mini derbouka, c'est pas un derbouka ça?
Non, ce n'est pas un derbouka, c'est plutôt un. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ça ressemble à un djembé miniature.
Oui, c'est un djembé miniature. Voilà.
Un djembé de poche.
Et ça?
Là, ce sont des petites clochettes qui normalement sont indiennes, voilà.
Qui se mettent à la cheville. Hein.
Voilà, soit à la cheville, soit au poignet, qui permet. Voilà.
D'accord. Allons-y alors. Oui.
Mais hélas, il n'y a pas Michel seul, ce qui était à la flûte, qui lui aurait apporté encore une autre dimension.
Thank you.
Fanny, tu voulais nous dire un petit quelque chose, il me semble.
Ah bah oui, j'ai préparé un petit texte. Wow. Parlant de Tim à mon façon.
Tu dis le texte sans musique ou avec musique?
Bah, il peut avoir des petites musiques autour.
Oui,
tu veux, vas-y.
Oui, je vais, comme ça, je vais essayer de parler plus calmement, plus lentement.
Zen. Je te remets la tempura, alors, en 432.
Donc, bonjour les auditeurs de Radio Libertaire. Je m'appelle Annie Falcon et je viens d'une ex-colonie de la couronne anglaise, les États-Unis. De là, je suis partie pour vivre une saison à Katmandou. Et plus tard, ici à Paname, j'ai rencontré Tim Lazer et les Shaman Bottles. J'assistais aux répètes, je jouais les cloches, je faisais des clips vidéo et des t-shirts. Donc, ce qui distingue l'artiste sont ses amours et ses préférences et ses passions. Et Tim Lazer réunissait dans une seule et même âme des passions, bien que hétéroclites, se réconcilier tout ensemble dans sa personnalité. Luthier et jeu védéiste, ethnologue empirique, shivaïste et sun dancer, cowboy et indien, martien et hippie. Il y avait des gens qui levaient les sourcils, le sourire en coin, à ridiculiser quelqu'un d'avoir tant d'intérêts à première vue contradictoires. Mais ce que Tim avait, c'était un enthousiasme, un earnestness, l'importance d'être soi-même qui le faisait traverser les pires scepticismes. Voilà la vraie libération donc, ignorer ce qu'on n'aime pas. Ce que nous aimons emplit notre vie jusqu'à ce que nous devenions le sage que nous aimons être. Tim Lazer cherchait à fabriquer le pont entre le Far West et l'Extrême-Orient. Deux traditions ancestrales qui se relient plus par les similarités que par les choses qui les différencient. L'imagination et l'idéal. La musique que Tim pratiquait est le médium vers la transcendance et la prise de conscience, avec un fond hypnotique qui représente l'élément terrestre des rythmes et la basse. L'élément aérien provoque l'envol de la conscience. L'auditeur sied en pleine écoute et à la fois dans le moment présent et ailleurs. Le mur qui nous sépare de nous-mêmes s'effrite un peu. Tim allumait de l'encens pendant ses lives. C'était un changement d'atmosphère et un renouveau. Entre les traditions shivaïques et les premiers peuples des continents américains, nous avons gardé cette connaissance primaire que l'être humain fait partie de la nature. Nous ne sommes pas à son centre. La terre est grande et le ciel aussi. Tim explorait les lieux numériques. Red Dawn Redemption, un jeu vidéo de l'Ouest américain, il aimait voir le coucher du soleil sur ces paysages grandioses. Entre chiens et loups, comme tant de nos ancêtres, Tim comptait le monde. Une fable est un moyen de relier le passé au présent en répondant à cette question à d'éternel retour. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous arrivés là? Pourquoi au fond de l'homme se niche une violence? Par le biais des savoirs anciens, en passant par l'utilisation des technologies récentes à des fins artisanaux, Tim Lazer recelait de visions insoupçonnées. Et c'est bien ça que Tim a partagé avec moi. En aimant ce qu'il aimait, en épousant ses vérités, il a trouvé au fond de lui un noyau de pouvoir, calme et insondable. Il a ainsi attiré une tribu autour de lui. Des psychonautes et des musiciens tournés vers les rêves éveillés. En tissant les savoirs de l'Est en Ouest, un nœud dans la matrice existe, un nœud dans la toile de l'histoire humaine qui témoigne de la véracité des traditions des peuples originels. Et je termine par un petit poème de Oden, W.H., qui, dans son propre jardin, n'a pas ouvert son cœur au secret souriant qui ne pourra point citer.
Merci. Ah bah oui, là c'est...
Alors, peut-être, Vincent, peut-être, on ne t'a pas entendu.
Oui.
Est-ce que, bah, dis, parce que moi je peux avoir des choses à dire, mais il faut...
Peut-être que que Vincent préfère s'exprimer en musique plutôt qu'en parole.
C'est pas faux.
Mais si tu veux dire ce que tu veux.
Non, un souvenir chouette. C'était ces répètes là qu'on faisait dans son atelier en hiver autour de son poêle. Je sais pas si tu te souviens.
Oui, très bien.
Et là, c'était une ambiance unique. On se croyait dans un chalet des fois à la montagne et on ressortait. Non, on était station Argentine. Ça, c'est un très bon souvenir que je garde comme ça.
Ce qu'on pourrait dire aussi, quand même, puisque c'est une émission qui est consacrée à la poésie, et j'ai oublié de le dire dans la présentation de Tim au début, c'est que c'était un poète, il écrivait un poème par jour.
Et ils sont où, ces poèmes?
Et ils sont chez moi.
Ah,
ah. Ce serait sympa, non?
Ah, la trésorière. c'est dommage que tu n'en aies pas amené.
C'est vrai, j'essayais d'appeler Michel et Michel n'était pas bien. Et puis j'avais plus les numéros ni de Vincent ni de Dave, donc j'ai pas pu préparer en fait.
C'est pas grave.
Voilà, j'avais plus non plus ton numéro.
Revenir Isabelle avec des poèmes. Il n'aurait pas été contre que tu dises ces poèmes.
Mais pas du tout.
Si
je veux, j'ai 10 ans de travail sur Tim, de faire une édition de ses poèmes, de faire une édition. J'ai des tiroirs entiers de maquettes, etc. D'écrire sa biographie.
Oh là là.
Moi aussi, j'en ai des heures et des heures. J'ai des papiers des heures et des heures, mais il y a beaucoup de gens ont beaucoup de choses à dire. C'est très riche.
Soit je choisissais d'être sa veuve jusqu'à la fin de mes jours, je pouvais ne faire que ça. Ou soit je faisais mes choses à moi. Juste pour pas être trop triste et voilà. Mais on peut faire des choses quand même.
Oui.
Ouais.
Et après, je vais vous annoncer un scoop, c'est que depuis le début de la semaine, je sais pas si c'est parce que je savais que j'allais venir, j'ai quand même décidé que j'allais écrire sa bio. Alors moi, je l'ai pas connue toute sa vie, donc j'aurais besoin d'interviewer des gens, mais je vais commencer une bio, peut-être quelque chose d'interactif, où je vais contacter des gens qui l'ont connu avant, qui mettront leur grain de sel, voilà. Je vais démarrer quelque chose comme ça, voilà, faire une bio.
Une bio aussi qui soit, justement, qui parle de son parcours artistique, et puis sa bio, quoi. Mais le parcours artistique est très important dans sa bio, j'imagine.
C'est quand même avant tout un artiste.
Voilà. Donc, Dave, je vois avec tous ces papiers que tu as devant toi.
Je n'en ai dit que un dixième pour dire que. Encore, je voulais avoir juste deux, trois thèmes parce que je ne savais pas comment allait se passer l'interview. Mais donc, je m'étais dit, je vais écrire quelques petites choses. Mais bon, je peux avoir encore 20 pages.
Oui. Tu vas te contenter de ce que tu as devant toi.
Bien sûr, de une page sur les cinq. Donc, peut-être le plus important. Alors, bien sûr, il avait ses idées, on en a un petit peu parlé, ses idées politiques, mais qui allaient assez loin. Alors, c'était Michel peut-être qui aurait parlé de l'improvisation, on en a un petit peu parlé, mais il avait une manière d'improviser. Alors, j'avais un petit peu le déroulé qui permettait de finalement comprendre l'improvisation et comment il arrivait à nous inculquer cette improvisation et de pouvoir ressortir cette improvisation, parce que c'est ça qui était difficile. Alors, ça, c'était un thème. Qu'est-ce que je préfère? Je vais plutôt parler de ce qu'il apporte encore aujourd'hui et demain encore. Pourquoi est-ce qu'il a du sens pour ceux qui l'ont connu? Pour moi, alors, chacun en particulier. Alors, je pense que ce qui était intéressant quand on le côtoyait, surtout musicalement, déjà, c'est que il voulait transmettre déjà ses idées pour que l'on ressente quand on jouait avec lui, et puis pouvoir aussi servir quelque chose qui soit en rapport avec ses idées. Alors, ce qui était bien, c'est que lui tentait en nous enseignant, il voulait nous apporter cet abandon du corps, justement ce lâcher prise qui permettait justement la musique libre et pas une musique crispée. Qu'on a tous, parce qu'on essaye de reproduire certaines choses. Lui, d'abord, c'était, avant de jouer, déjà, on écoute. On écoute la musique, déjà, on voit où est-ce qu'on peut se positionner. Et comme il le disait en politique, parce que c'était vraiment un tout, c'est-à-dire que plutôt que venir s'imposer avec sa guitare ou avec sa batterie par-dessus, c'était venir s'infiltrer dans la musique à des endroits silencieux, c'est-à-dire des contretemps qui ne sont pas joués. C'était pas venir avec s'étaler musicalement, mais justement, des petites touches. Et donc il apprenait déjà d'avoir cette réflexion spirituelle intérieure, et justement pour enlever cette frustration et cette crispation, c'était d'abord le calme. Lui, il disait, quand on joue, on fait une répétition, on fait d'abord un petit feu, même si ce feu était symbolique, mais on était autour d'un feu déjà, on était au service déjà de la spiritualité et de la musique, et pas au service de son propre problème psychiatrique même, ou névrotique. Donc on devait déjà, il y avait ce lâcher prise qui faisait que l'expression devait être presque spirituel plutôt que égoïste. Et il arrivait à transmettre ça à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé au sein de Shaman Bottle, il a pris le temps de me montrer, de m'expliquer avec tout son calme. Et il arrivait comme ça à pouvoir, à chaque personne qui venait, avoir la patience de lui expliquer exactement la spiritualité, comment ressentir la musique et ressentir, c'est-à-dire l'improvisation, c'était d'abord comprendre la musique, déjà savoir la jouer, déjà jouer de son instrument, connaître son instrument, attendre, ressentir et après exprimer. C'est pas juste on arrive avec son instrument, on joue et on fait un concert. C'était il y avait d'abord voilà une immersion un petit peu dans justement avec son encens permettait voilà de se lâcher. Et donc il a pour moi et pour les gens qui l'ont approché, je pense musicalement, il a permis justement cette réflexion et ce lâcher prise. C'est-à-dire que c'était un leader sans le pouvoir. C'est-à-dire que c'était lui qui, c'était notre chef, c'était notre gourou, mais pourtant lui n'était, au sein du groupe, c'est pas lui qui dirigeait en disant on fait comme ci, on fait comme ça. Il mettait la tempura, qui est ici, lançait un rythme et c'était libre à tout le monde. Et lui aussi venait s'incruster, donc il y avait, c'était lui le leader, mais sans commander. C'était ça qui était très intéressant. C'était notre gourou, il disait je ne suis pas votre gourou, mais nous on savait que c'était notre gourou, c'est ça qui était intéressant.
Ah oui, d'accord.
Et on était libre, en fait on était libre. Parmi lui, mais c'était lui notre
gourou,
chef. Mais...
Gourou,
oui, je dis gourou.
Je dirais grand frère. Mais
oui, grand frère, non, je dis gourou, oui, bien sûr. Mais...
C'est vrai que ça fait peur un peu.
Gourou, oui, gourou. Ouais. Bon.
Le disque que tu nous as gracieusement donné, est-ce que, alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce disque?
Alors, je ne l'ai pas écouté depuis longtemps. Mais c'est avec un autre groupe, il avait plusieurs groupes.
Oui, et on
simultanément,
l'entend.
Il joue, je suis désolée de ne pas. En fait. Justement parce que j'avais pas pu préparer l'émission, il s'est passé plein de trucs. Avant de partir tout à l'heure, je me dis mais c'est dingue, j'ai rien préparé, les poèmes sont.
Et tu connais ce disque?
Pas accessible. Oui, c'est avec Pedro. Et donc avec Pedro, c'est la friche. C'est à la friche
voilà,
avec Pedro.
C'est ça doit être à la friche avec Pedro.
Et lui, il enregistrait pareil en impro. C'était dans l'atelier de la friche rue des Noyers.
On va peut-être écouter un morceau.
Bien
on
sûr.
Peut écouter, ou alors c'est... celui qu'a apporté, enfin celui-là.
Il y en a un qui me tient à cœur. Je m'étais trompé tout à l'heure en écoutant Break It Now. Et là, je reviens. Ouais, juste. Ou peut-être on finit avec celui-là, si tu veux écouter
sinon,
un
petit c'est-à-dire qu'il nous reste exactement.
5 minutes.
Ah, bah,
tellement à dire.
Les morceaux que tu as choisis font 5 minutes, Vincent. Live and die. Live and die.
Ça dirige, bon, bah.
Facebook, il y a une page qui est consacrée toute l'actualité Team Lazérologique. Se trouve sur un groupe qui s'intitule Les Team Lazérologues Associés.
Avec un Z, je crois.
Alors, je vais les appeler. Les Team Lazérologues, T-I-M-L-A-Z-E-R, au log comme un. Voilà, Lazérologue, associé sur Facebook. Alors, bon, c'est pas. Voilà. Après, il y a Chaman puis, Histoire. On peut écouter Chaman Bottle sur Chaman Histoire.
Oui, c'est-à-dire on a repris. Il y a le site. Il y a toutes les informations qu'on a pu avoir dans le passé et aujourd'hui, puisqu'on continue à faire des concerts en son hommage. Donc c'est https://. Ça on connaît. C'est Chaman Histoire. Donc Chaman, C-H-A-M-A-N-I-S-T-O-I. Donc chamanise toi. Donc, on prend le point, alors le site est pas chamanhistoire.neocities.org. Neocities, c'est N-E-O-C-I-T-I-E-S.org. Donc chamanhistoire.neocities.org.
Et voilà. Ben merci. Et, hein.
Le de madame, peut-être, non, non. Ouais, c'est fini.
Et puis Nomads House, ouais. Ne pas oublier la carte rouge des bassins du 5 au 9 juillet.
Yes.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Super, bravo.
Sur 89.4.
ils arrivent d'un monde qui se meurt. Ils flottent dans l'univers, poussés par les vents solaires. La fonction de toute vie est la survie. Venue des profondeurs de l'espace, la graine est semée. Dormez.